Dieu existe, Dieu est vivant, Dieu est éternel. C'est éternellement qu'il pose son regard sur nous. Il est éternel, donc son regard, son amour se penche sur nous continuellement et éternellement. Celui qui lève les yeux vers Dieu resplendira immédiatement, sans ombre ni trouble au visage, parce que regarde Dieu sur lui et il le comblera. Parce que quand Dieu pose son regard, c'est un regard d'amour, et c'est un amour plus qu'infini, puisque il est plus grand que celui qui est sans limite et sans fin qu'on trouve dans le monde angélique, qui est créé par le Dieu d'amour. Dieu a un regard d'amour sur le monde angélique aussi. La mort est entrée dans le monde parce que on a posé ne serait-ce qu'un instant dérisoire, peut-être a suffi pour qu'on pose notre regard ailleurs qu'à l'attention de Dieu se portant sur nous pour venir trouver ses délices en nous, dans l'unité avec son amour et dans une communion de chaque instant qui soit sans séparation, sans aucune, avec son amour éternel en lui-même. Alors la souffrance est la mort, les tourments dans lesquels ne viennent pas de Dieu, dans lesquels nous sommes plongés, dans lequel le monde est plongé, ça ne vient pas de Dieu. En Dieu, il n'y a que l'amour, la vie et la lumière. Il nous connaît. Rien ne lui est étranger de ce qui vient de nous. Et il voit où nous sommes. Nous sommes plongés dans les tourments. Le fait d'être séparé de Dieu dans cet amour, avec une distance très grande entre lui et nous, il n'y a plus cet amour originel, cette vie divine. C'est une souffrance et un tourment immense pour chaque être humain d'être séparé de Dieu. Mais c'est de compassion. Et le péché a fait en sorte que le mystère de compassion vis-à-vis de nous-mêmes et de notre prochain, plongé dans ce tourment, est comme disparu. Mais il n'est pas disparu de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons les lectures d'aujourd'hui, parce que Dieu est amour et lumière, et il n'est pas étranger. Et il veut nous mettre sa lumière et son amour éternel pour nous reprendre, pour nous racheter. C'est pour ça que dans le chapitre 53 du prophète Isaïe, nous avons ce texte sur le serviteur souffrant. Dieu n'est pas étranger du tout à nos souffrances. Le serviteur souffrant, mais Dieu est venu étreindre notre souffrance dans toutes ses dimensions. Et elles sont la dimension de Dieu lui-même, puisque c'est l'amour de Dieu qui fait l'aiguillon de notre tourment impossible à porter. Impossible à l'homme et impossible à Dieu aussi, parce que Dieu est amour et il n'y a que de l'amour, il n'y a pas de souffrance en Dieu. Il est venu chez nous. Il a pris chair pour pouvoir connaître nos souffrances, notre mort et l'étreindre dans notre nature humaine, et puis nous donner la connaissance que dans laquelle le péché nous a fait aggraver, j'allais dire, notre perdition par l'inconnaissance. Alors la révélation est là aussi, dans la vérité tout entière. Dieu nous aime. Il a tellement aimé le monde qu'il a pris chair pour étreindre le fond des tourments et des souffrances de l'homme. Le premier homme, Adam et Ève, l'homme dans a été créé par Dieu, dans une unité parfaite avec Dieu, et dans une espérance de sainteté parfaite, dans une étreinte immédiate, intime, profonde, avec la vie divine à l'état pur, la capacité de faire que cet amour se répande, se multiplie, se transforme, et plaise éternellement à Dieu dans des délices, qui font les délices de Dieu lui-même, parce que c'est l'amour de Dieu qui fait les délices. De l'amour de Dieu, Dieu aime être aimé. Et voilà, et la révélation est venue pour nous dire où est le péché. Il ne vient pas de Dieu. Et donc l'homme et la femme, à l'état parfait, d'amour en puissance et en acte pur, c'est-à-dire dans sa puissance de surabondance, de réengendrement, d'engendrement à l'infini aussi, dans son intensité et son extension aussi. Lorsque l'homme, lorsqu'il y a eu le péché, sous l'influence de Satan, c'est vrai. Mais c'est pas Satan qui a péché, c'est l'homme. Parce que l'influence de Dieu était beaucoup plus grande, sans aucune comparaison, que l'influence de Satan. Et c'est quand la femme s'est laissée séduire, Adam, le premier homme, était à la ressemblance de Dieu, avec la plénitude de l'amour de Dieu. Et il pouvait librement, parfaitement et complètement donner sa vie à celle qui s'était laissée séduire et lui donner son sang, parce que le sang du premier Adam était un sang d'amour. Il donnait sa vie, et en donnant son sang à sa moitié sponsale, si je puis dire, dans l'unité, dans l'au-delà de l'unité des deux, il lui redonnait la vie avec son sang à lui, qui était celui, donc, qui était tel qu'il était aux dimensions de la souffrance et du tourment, que représentait la disparition, ne serait-ce qu'un instant, de l'échange de l'accueil du don d'amour de la part de la femme. Il avait le pouvoir d'absoudre, l'absolution, mais il ne l'a pas fait, Adam ne l'a pas fait. C'est donc toute la nature humaine qui a dû quitter l'arbre de vie, où on se nourrit de l'amour de Dieu éternel, dès cette terre. Alors le chapitre 53 du prophète Isaïe indique qu'il faut que ce soit Dieu lui-même qui prenne chair dans notre nature humaine pour donner sa vie, pour étreindre toutes les souffrances et tous les tourments, toutes sans exception, et pour nous racheter. Il nous a rachetés par ses tourments, ses souffrances. Le prophète Isaïe, c'est magnifique, hein. Chapitre 53, c'est celui qu'on attribue à l'amour qui se répand de l'intérieur de Dieu à partir de toutes ses miséricordes et compassions incréées. Hein, 53. Et le serviteur souffrant justifiera les multitudes et il va nous racheter. C'est un rachat. C'est par ses souffrances qu'il nous a rachetés. Le livre du Lévitique dit que c'est le sang innocent qui sert de rachat pour le pardon. Mais il n'y a qu'un seul sang innocent, puisque Adam a échappé. Il n'a pas été fidèle à ce pouvoir qu'il avait d'être rédempteur du monde. Alors il a fallu que ce soit Dieu lui-même qui vienne embrasser cette innocence, et dans cette innocence se livrer à ses tourments, à cette souffrance. Le serviteur souffrant justifiera les multitudes, parce que la ressemblance de Dieu dans l'amour inséparé de Dieu ne se trouve donc que en lui. Et le juste justifiera les multitudes par la souffrance. Le serviteur souffrant va plaire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. C'est Dieu, amour, va connaître l'amour dans son maximum d'éternité à l'intérieur, donc, de la souffrance. Et du coup, il va plaire, il va pouvoir rentrer dans le sein des saints de l'éternité vivante de Dieu avec ses souffrances et avec son sang. Il va pénétrer dans le sanctuaire épître aux Hébreux aujourd'hui avec son sang, et il vous rachète à nous-mêmes, eh bien, le juste, le serviteur souffrant, justifiera la multitude et il connaîtra une descendance. Jésus crucifié, Jésus glorifié dans son sang, parce que le sang glorieux ressuscité de Jésus est un sang de souffrance glorifiante et glorifiée, pénètre dans le Saint des Saints et reproduit la Créateur de Dieu. Il nous a rachetés par son précieux sang. Et il aura du coup une descendance. Et cette descendance, c'est nous. Nous sommes la descendance de la souffrance du Christ. Et nous sommes sa ressemblance. Et Dieu n'est pas incapable de pénétrer jusqu'à nous pour embrasser, étreindre et nous racheter de tout ce qui est souffrance en l'étreignant lui-même pour lui-même en entier. Mais à cette multitude de ceux qui sont de sa descendance, il donne d'être sa ressemblance, comme serviteur souffrant. Voilà, c'est pour ça qu'on a l'évangile. On a dit, mais c'est vrai, Jacques et Jean disent à Jésus, mais est-ce que on voudrait te demander quelque chose? Tu es Dieu, né de Dieu, Yod, la toute puissance du Père, du Fils, du Saint-Esprit, trois en un, non trois, mais Jacques et Jean, c'est Yod aussi, hein? Jacob et Johanna. Ça fait les trois iodes comme ça dans la nature humaine. Est-ce qu'on pourrait être nous à ta droite et à ta gauche dans la gloire? Et elle est belle, la réponse de Jésus, la réponse du serviteur souffrant. Elle est belle, elle est grande. Elle dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Parce que être à la droite et à la gauche de celui qui vient étreindre la souffrance, ça ne peut être que Dieu. Et à la droite et à la gauche, il y a le Père qui est Dieu, et il y a le Saint-Esprit qui est Dieu. Et Dieu le Fils qui est amour éternellement est à la droite de Dieu le Père. Et Saint-Esprit est à la droite de Dieu le Fils. Vous n'êtes pas Dieu, mais vous pouvez être de la descendance. Vous pouvez être de la divinité, de ce que je suis éternellement. Vous ayant racheté de tout ce qui n'appartient pas éternellement à Dieu. Il nous a rachetés par son sang. C'est par ses souffrances que nous sommes recréés. Il a une descendance. La nature humaine de Jésus crucifié a une descendance. Jésus crucifié engendre comme nouvel Adam dans sa souffrance, dans son sang. C'est extraordinaire, le mystère de la croix, parce que c'est pas un mystère. Parce qu'un mystère est inatteignable, tandis que là, dans le mystère, c'est au contraire ce qu'il y a de plus atteignable en nous, directement, immédiatement, à travers le toucher même du corps, de l'âme, de l'esprit, de la chair et du sang. Dieu ne peut pas mourir, même dans le Christ Jésus notre Seigneur, Dieu ne peut pas mourir, il peut connaître la souffrance. Et la souffrance, elle peut être des myriades et des myriades, des myriades et des myriades de fois. Transsubstantiée continuellement, elle ne produit pas la mort dans le Christ Jésus. C'est une souffrance qui est plus que sans limite et sans fin. La dernière goutte de sang, on voit bien quand on lit, par exemple, Marthe Robin, quand on lit la bonne nouvelle de la croix glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ, on voit que Jésus, le serviteur souffrant, donne chaque goutte de son sang jusqu'à la dernière, même quand il est crucifié. Même quand il est sur la croix, il n'y a plus une seule goutte de sang en lui. Il est toujours vivant. Il regarde sa mère. Il est à l'état cadavérique. Il n'y a plus une seule goutte de sang. Il en reste encore un petit peu dans la partie du lobe, du fond, du cœur. Il reste une goutte de sang, une goutte d'eau, qui dans une demi-heure après sa mort, va jaillir hors de lui. Mais sinon, personne ne peut lui retirer sa vie, personne. C'est lui-même qui, ayant déjà donné tout son sang, préfère continuer à vivre dans une souffrance qui est l'acte pur de la souffrance, et il ne meurt pas. C'est une demi-heure après sa mort que la dernière goutte de sang, parce qu'elle est produite par la très sainte Trinité, dans la maternité divine de Marie, et que la maternité divine de Marie est cette goutte de sang qui reste dans le cœur une demi-heure après la mort de Jésus. C'est parce qu'il y a ce rachat que Jésus va détruire la mort. Et il va la détruire en faisant que toute la souffrance rédemptrice, dont on ne peut même pas imaginer l'intensité et la profondeur, c'est une souffrance d'amour, donc elle ne détruit pas la vie de l'union hypostatique de Jésus comme serviteur souffrant. Il faut que cette mort puisse être entièrement détruite en pénétrant dans le sein des saints de la vie éternelle. Alors du coup, effectivement, par la puissance de l'amour, il va étreindre toutes les formes de la mort pour les faire pénétrer de lui-même, par lui-même et en lui-même. Et par la résurrection, il va détruire la mort pour que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais soit sa vie. Et que nous soyons de sa descendance par la souffrance, la participation à la grâce, à la vie divine. On le voit par exemple pour Marie, c'est une participation à ses souffrances. Et à cette souffrance-là, qui n'est pas du tout une souffrance symbolique, dans le Christ Jésus, notre Seigneur, Dieu vivant, et nous, nous sommes une seule descendance. Jésus est notre Père, et notre vie, c'est Jésus crucifié. C'est ça qui est à l'intérieur de nous. Mais cette souffrance qui est absolument impossible à porter, à traverser, nous la traversons. Parce que c'est possible pour Dieu de nous la faire traverser avec la puissance de Dieu. Et en fait, aujourd'hui, ce mois-ci, le 800e anniversaire de la stigmatisation de saint François d'Assise, séraphiquement, Jésus a pu vivre ses souffrances du serviteur souffrant, mais rempli d'amour, embrassé d'amour, ce qui ne supprime pas la souffrance, à l'intérieur de lui-même. C'est le 800e anniversaire cette année, mois d'octobre 2024. Et avec le Saint-Père, avec l'Eucharistie, avec Marie, les portes se sont ouvertes depuis 2 ans pour que nous puissions rentrer dans la grâce de l'accomplissement des dons de la croix, lorsque cette croix ouvre ses portes à la propre gloire qui est contenue, à savoir l'amour de Dieu, qui donne puissance à ce qui est impossible aux démons de même pouvoir entrevoir ou imaginer. Cet écoulement d'amour éternel de cette terre dans le royaume de la croix glorieuse s'écoule désormais dans tous, dans toute la descendance de ceux qui sont dans la foi, l'espérance et la charité. Et nous, notre espérance nous permet de demander pardon pour toutes les âmes qui n'espèrent pas la sainteté à l'état pur et à l'état parfait dès ici-bas. À tous ceux qui n'aiment pas de l'amour à l'état maximum, qui ouvrent ses écluses à l'intérieur de notre foi, dans son accomplissement et sa plénitude reçue. Alors, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire? Est-ce que vous pouvez être à ma droite et à ma gauche? Je suis un homme, un serviteur souffrant comme vous. Et c'est réservé à Dieu d'être à la droite et à la gauche de Dieu. Vous ne savez pas ce que vous demandez, mais est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire? Et le baptême de la souffrance, est-ce que vous pouvez y être baptisé? Ce qui est impossible pour l'homme, vous êtes impossible. Mais c'est possible pour Dieu, parce que je suis le serviteur souffrant. Dieu seul, en étreignant cette souffrance, peut vous en donner la puissance de pouvoir y participer. Et vous n'êtes ni à ma droite ni à ma gauche, mais vous êtes à l'intérieur de moi-même, dans ma divinité éternelle d'amour. Alors oui, vous boirez à la coupe. Alors oui, vous serez baptisé de mon baptême. Et vous donnerez votre vie. Et en donnant votre vie, c'est moi-même qui donnerai ma vie à travers vous. Nous sommes un dans le rachat du péché. Mais pour ça, les évangiles du mois d'octobre, c'est une bonne nouvelle, parce que Elle nous indique que nous avons été choisis pour renouveler l'amour éternel de Dieu dès cette terre, dans la plénitude de tous ses dons et dans l'accomplissement de tous ses bienfaits. Et c'est une bonne nouvelle que nous annonçons à tous les innocents, à tous les innocents crucifiés par la souffrance, sachant d'ailleurs que la crucifixion de l'innocence est un voile qui se soulève sur notre souffrance profonde, oubliée. Mais nous en faisons mémoire dans la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui donne dans l'Eucharistie et le monde nouveau établi, mis en place par le Saint-Père, qui donne les torrents de cet amour. Comme cet amour est rempli de lumière, il donne à ceux qui y communient de faire partie de la descendance de Dieu vivant et de pénétrer dans la sainteté à l'état pur et l'amour maximum que Dieu puisse entrevoir à l'intérieur de lui-même, dans la réponse d'amour de tout ce qu'il est lui-même en lui-même. Vous pouvez boire la coupe, bien sûr, et être baptisé de ce baptême. Il a pénétré dans le Saint des Saints. Il fallait pour ça qu'il ressuscite déjà dans son âme glorieusement, pour pénétrer dans le Saint des Saints, avec dans sa souffrance, toujours présente à l'intérieur de la souffrance substantielle qui est en Marie, dans sa compassion, dans ces instants extraordinaires. Il pénètre avec souffrance et avec un sang pénétré de souffrance parfaite dans le Saint des Saints, la paternité incréée de Dieu. Nous avons un prêtre, un grand prêtre, une victime d'amour. Et comme cette souffrance est partagée par la Jérusalem elle-même à l'état pur, dans l'acquiescement de la gloire de la croix, à ce moment-là, elle peut envoyer la force de l'amour éternel de Dieu à la terre de tous ceux qui vivent de la croix. Et c'est grâce à cet amour maximum, cet amour maximiel, quand il regarde l'amour à son état maximum en Jésus, pénétrant à l'intérieur du Saint des Saints éternel de son don, qu'il assume toute la nature humaine, recréée dans la rachat, qu'il peut à travers Marie, la nature humaine sauvée, rachetée, remplie de cet amour, à l'état maximum, renouvelée, réengendrée, la créateur qu'il est en lui-même, dans la nature humaine tout entière. Et à travers elle, la Jérusalem dernière et glorieuse, réengendrée le monde pour que son royaume s'établisse à partir de la terre dans le ciel. Et du coup, il fait de la maternité divine de Marie dans l'Eucharistie, dans la coupe et dans le baptême du feu et du Saint-Esprit. Il réalise, à travers elle, l'engendrement avec le Père, la puissance du Saint-Esprit, l'engendrement de Dieu le Fils amour, l'engendrement éternel de Dieu le Fils amour. Et donc, l'Église de Marie, la vie glorieuse de Marie, la vie éternelle de la gloire de la Jérusalem glorieuse ainsi établie dans le Saint des Saints, peut engendrer à travers elle le Verbe de Dieu dans la résurrection de la chair. Et dans la résurrection de la chair engendrée par Marie, engendrée par la Jérusalem glorieuse qu'elle est à travers toute la descendance, non pas sans elle, mais avec elle, Marie devient la mère de la résurrection, non pas sans la Jérusalem entière de l'amour maximiel qui est celui dans lequel nous avons été rachetés. Oui, vous boirez la coupe, oui, vous serez baptisés de ce feu et vous donnerez votre vie dans la souffrance, mais avec la puissance de Dieu pour porter cette souffrance à son état glorieux. Il n'y a plus aucune distance entre la souffrance et l'amour, entre la gloire et la fécondité éternelle dans la chair de toute chair. Et c'est l'amour qui fait ça. Il faut vraiment qu'il y ait dans les jours de cet événement un acquiescement qui soit celui de la grâce chrétienne dans son accomplissement à la Jérusalem dernière, qui nous envahit en pleine lumière et qui nous assume en cette opération divine de Jésus rentrant dans le Saint des Saints, la paternité de Dieu, pour venir nous inspirer à l'intérieur de la très sainte Trinité, à vivre dès cette terre par la foi et par l'intensité d'amour qui correspond à cette mission qui est la nôtre, par la foi, au jour de la manifestation glorieuse de la croix. Alors le temps dépasse tout le monde créé. Même le monde de la résurrection est dépassé par cet instant du temps qui est celui qui est le nôtre, dans l'étreinte de la qui nous est donné de pouvoir vivre sans mourir. C'est beau, je trouve, cette révélation qui est notre partage d'une souffrance qui est plus qu'infinie, mais qui est portée par l'amour et ne nous fait pas mourir. On peut mourir comme ça des milliards de fois, parce que l'amour fait la jubilation et les délices de Dieu qui du coup engendre continuellement une descendance aux serviteurs souffrants, le Fils de l'homme. Nous sommes les enfants du monde nouveau, dans le réengendrement de toute la terre. Pour le règne du Sacré-Cœur, il doit s'établir dans le temps qui dépasse toutes les déterminations glorieuses, même des univers de la résurrection, parce que Dieu est plus grand que la résurrection. Et ça, c'est la foi. C'est par la foi, par l'espérance de la sainteté la plus pure et la plus parfaite qui soit, qui est la nôtre. Et par l'amour, l'amour maximum, qui est dans la dormition de Marie et de Jésus, une seule dormition qui doit être la nôtre dans l'union transformante et l'acquiescement. Voilà le fruit des sacrements. Et c'est par cette souffrance d'amour-là qui ne nous fait plus peur, que nous pouvons être réellement l'absolution du monde entier en la Jérusalem dernière sans être vu, puisqu'il n'y a que Dieu qui voit cela, il n'y a que Dieu qui peut le voir, et en posant son regard sur nous.